Bonjour, bienvenue à cette deuxième émission des Poolers. Aujourd'hui, on met la table pour la 9e semaine d'activité dans la NFL, ainsi que la première semaine de novembre dans la NHL. Tout ça en compagnie, bien sûr, de notre analyste préféré, Samuel Fournier.
Salut, salut. Salut.
Ça va?
Ben oui, toi?
Ben oui. Donc, segment NFL, aujourd'hui, on parle des résumés de la semaine passée, les retours sur les grosses prédictions de Sam qui nous a fait la semaine passée, la présentation des matchs de cette semaine, il y a des gros matchs, je pense, cette semaine, les valeurs sûres et les équipes en difficulté, comme à l'habitude. Segment NHL, le résumé des points forts de cette semaine. On sait qu'on a des gros joueurs qui ont surpris cette semaine. Les équipes en feu, équipes en difficulté, les joueurs en panne sèche. On a des gros noms qui ont un début de saison à la baisse. Et ben les joueurs en feu, comme à l'habitude. On va terminer l'émission avec de l'actualité sportive en général, comme la Série mondiale au baseball, donc le troisième match qui s'est déroulé hier, ainsi que de l'actualité sur Félix Auger-Aliassime, le Québécois qui est en feu au tennis en ce moment. Donc, tout ça aujourd'hui, donc bonne émission. Donc, Sam, on fait le retour sur le résumé de la semaine passée et le retour de tes prédictions la semaine passée. Donc, tu avais fait quelques prédictions.
Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, par quoi on avait commencé la semaine passée?
Tes valeurs sûres, je pense.
Ouais, ça se peut. Bon, ben, on va parler de mes valeurs sûres. La semaine passée, j'avais mis les Cowboys de Dallas qui jouaient contre les Bears, puis les Eagles de Philadelphie qui jouaient contre les Steelers en tant que valeurs sûres. Puis, ben, si vous m'avez écouté, ben, ça a dû s'avérer très bien parce que les deux équipes ont très bien performé et ont réussi à gagner. Les Cowboys qui ont quand même gagné 49-29, fait que c'était quand même un très bon festival offensif, c'était une bonne game, je l'ai écouté d'ailleurs. Et les Eagles qui ont battu les Steelers 35-13, donc pour moi, mes prédictions étaient très bonnes. Après ça, c'était quoi l'autre point?
Tu as parlé de l'équipe qui marquerait le moins de points.
Ouais, c'est ça. L'équipe qui marquerait le moins de points, moi, j'avais dit que ça allait être les Packers de Green Bay qui jouaient contre les Bills. J'avais vraiment vanté la défense des Bills la semaine passée. J'attendais qu'elle allait revenir fort puis qu'elle allait continuer à détruire toutes les autres équipes puis de leur jouer dans la tête. Mais la semaine passée, ça a quand même été plus chaud que prévu. 27-17 pour les Bills, j'ai été un petit peu déçu. Quoi qu'ils ont quand même gagné, mais c'est vraiment loin d'être la game qui a eu le moins de points marqués. Parce que la semaine passée, il y a eu les Saints, une petite parenthèse, qui ont gagné 24-0 contre les Raiders. Donc, je m'attendais jamais à ça de cette game-là. Je pensais que ça allait être plus offensif que ça. Mais les Saints qui ont très bien performé, puis que leur défense a vraiment fait le travail pour balayer l'attaque des Raiders à chaque fois qu'ils embarquaient sur le terrain.
La dernière prédiction que tu as faite la semaine passée, je pense que c'était ta surprise de la semaine.
Ouais, c'est ça. Dans le fond, ben en fait, il en restait deux. J'avais aussi betté sur l'équipe qui allait en marquer le plus. Excuse-moi, mais oui. C'est une petite parenthèse. J'avais dit que ça allait être les Eagles. J'avais dit qu'ils allaient continuer le rouleau compresseur qui attaquait quand même les Steelers, qui ont quand même une bonne défensive, mais qui manque des gros morceaux. Quand je pense à TJ Watt, qui n'est pas revenu depuis le début de saison, qui est un
pilier défensif.
Ouais, c'est ça, un gros pilier défensif, puis avec le départ de quelques joueurs comparativement à l'année passée. Fait que je m'attendais à ça, mais ils ont quand même fait 35 points. C'est pas tant mauvais, mais c'était quand même dur d'en marquer 49 contre les Cowboys, donc je suis pas déçu de ma prédiction. Puis c'est ça, pour finir, j'avais parlé de ma surprise qui s'est presque avérée bonne. Dans le fond, c'était la game des Panthers contre les Falcons. J'avais mis les Panthers gagnants malgré le départ de Christian McCaffrey. Puis, ben les Panthers, dans le fond, perdaient par 7 en fin de match. OK? Puis là, ils ont tenté le fameux Hail Mary. Puis ça s'est avéré qu'ils ont fait un toucher là-dessus. Là, j'étais là, ça y est, scénario drive, je l'ai. Mais, après ça, il restait quand même la prolongation. Devine quoi? Ils ont gagné le coin toss. Le flip de coin, on flippe le sou. Ils ont gagné. Fait qu'ils commençaient soit à la défense ou à l'attaque. Fait qu'ils ont pris le ballon. Puis il faut le rappeler, dans la NFL, dans le fond, quand on entame une prolongation, si tu marques un 3 points au début, tu donnes la chance à l'autre équipe d'avoir une possession offensive. S'il marque 3 points, l'autre équipe aussi, le match se continue. Ça retourne à la première équipe qui a eu le ballon. Mais une fois que tu as eu les deux premières possessions, si les deux équipes ont marqué un 3 points, c'est la prochaine équipe à marquer un touché qui gagne. Mais l'équipe qui gagne le toss au début, s'ils commencent le match et font un touché, la game est finie, il n'y a pas d'autres possessions pour l'autre équipe. Et les Panthers avaient la chance d'inscrire 3 points en fin de prolongation et avaient juste à faire un kick de 33 verges, mais il l'a manqué. Et scénario désastreux, ensuite les Falcons ont remonté le terrain et ont fini par un 3 points sur leur dernière possession, donc ont arraché la victoire.
Donc pratiquement, t'as presque eu ta prédiction pour la surprise de la semaine.
Ah ouais, ça, je suis quand même très content, ça a rasé d'être un beau scénario Cendrillon.
Donc pour poursuivre notre segment NFL, on présente les gros matchs de cette semaine, donc tu peux parler des grosses équipes qui jouent cette semaine.
Ben c'est ça, quand on parle de grosses équipes, on parle évidemment des Eagles de Philadelphie, qui sont 7-0, la seule équipe invaincue dans la NFL jusqu'à maintenant. Ils rencontreront les Texans de Houston cette semaine. Les Texans qui ont qu'une victoire cette année et 5 revers, 1 revers en prolongation. Est-ce qu'on peut caller une surprise pour cette semaine, selon toi? Penses-tu que les Texans pourraient leur jouer dans la tête? Ils vont arriver là, passer, préparer?
Je pense pas. Honnêtement, les Eagles, c'est un rouleau compresseur. Tu l'as mentionné tantôt. Ils sont très forts mentalement. Ils ont une attaque de feu. Je pense que les Texans feront pas le poids cette semaine.
Eh oui, puis la semaine passée, dans le match, A.J. Brown, un joueur des Eagles de Philadelphie, a marqué 3 touchés dans le match. Il y a vraiment des vedettes dans cette équipe-là. Quand je pense aussi au QB, Jalen Hurts, qui est dans le sommet des marqueurs. Au sommet des touchés au sol dans la NFL, n'est pas le premier, mais je pense qu'il est dans le top 3. Donc, pour un corps arrière, c'est beau de voir ça. Ça roule vraiment pour lui. Après ça, dans les autres gros matchs de la semaine, il y a les Bills qui affronteront les Jets, un match de section. Dans le fond, c'est un match qui est vraiment important. Je sais que dans cette division-là, c'est vraiment serré. T'as les Jets qui sont pas trop loin, mais je pense qu'ils sont derniers. Ensuite, il y a les Patriots qui ont non plus pas tant de mauvaises fiches. Il y a les Dolphins qui tentent de s'accrocher. Ils ont eu un bon début de saison. Ils étaient 3-0, mais là, ça va mal à cause que Tua s'avait blessé. On le sait que les histoires de commotion et tout. Et les Bills, bon, ben, qui trônent au sommet, eux, mais ne doivent pas prendre ce match-là à la légère. Donc, selon moi, je pourrais coller ça comme ma surprise de la semaine.
Moi aussi, j'irais avec les Jets. Donc, comme on l'a dit, c'est serré dans cette division-là. Les Jets sont quand même une bonne équipe. Je pense que c'est ma surprise de la semaine.
Ouais, c'est ça, parce que dans ce match-là, il va pas falloir oublier de se présenter, hein, surtout un match important. Ensuite, un match entre les Jaguars et les Raiders. Comme j'ai dit tantôt, les Raiders se sont fait surprendre à Nouvelle-Orléans la semaine passée en marquant un score de 0 points. C'est assez décevant pour les partisans. Fait que là, je pense pas que Derek Carr et sa bande vont en laisser passer d'autres de même. Je pense que là, ça s'est parlé dans le vestiaire. Il y a bien de l'expérience dans cette équipe-là. Puis ils ont eu des grosses acquisitions cette année, des Davante Adams et compagnie. Donc là, je pense qu'ils vont, revenir fort contre les Jags. Puis pour finir, un autre gros match qui pour moi est très intéressant. Les Rams de Los Angeles qui affronteront les Buccaneers de Tampa Bay. Là, c'est le temps. Si Brady là, veut refaire un comeback dans la saison, c'est le temps. C'est un gros match. C'est une reprise du Super Bowl. D'il y a quelques années. L'année passée? Non.
L'année d'avant,
je pense. Ouais. Ben, je pense que c'était un match de Super Bowl.
Ouais.
Donc, ça va être intéressant de voir. Dans le fond, Tom Brady, ça va pas trop bien cette année. Je sais qu'il y a des grosses chicanes d'équipe. Il s'entend pas trop bien que ça aligne à l'attaque. Donc là, j'ai hâte de voir. C'est le temps de rebondir. Ils ont tous les éléments pour eux. Juste qu'il reste juste à mettre ça à l'œuvre. Puis dans le cas des Rams, je sais que toi t'es un fan des Rams, mais tu peux-tu nous en parler cette année, c'est quoi qui se passe? J'ai
super... honnêtement, je suis un peu déçu. On sait qu'avec le Super Bowl de l'an passé, je pensais qu'il allait tout démolir cette année. On sait avec une grosse attaque. Leur corps arrière, Stafford, qui déçoit un peu, je pense.
Ouais, il y a bien de la misère cette année. Je sais que l'attaque des Rams n'est pas autant dévastatrice que l'année passée.
Même Cooper Kupp, qui a eu un gros, gros début de saison dans les 2-3 premiers matchs, mais les deux derniers ralentit un peu. Mais je pense que cette semaine, il peut rebondir. On sait, c'est l'équipe gagnante de l'année passée, donc ils ont tous les éléments pour remporter des gros matchs.
Mais toi, dans ce match-là, tu mettrais qui gagnant?
Les Rams.
Les Rams? OK. Fait que là, on va continuer sur notre segment. Dans le fond, notre surprise de la semaine, on a dit que ça allait être les Jets. Donc ça, c'est close. Ensuite, je vais y aller avec le match qui se fera le plus de points cette semaine. Mm-hmm. Je vais y aller malheureusement encore avec les Eagles. J'ai pas le choix. C'est le choix facile, mais honnêtement, les Texans qui ont vraiment rien prouvé, les Eagles qui sont en santé, je pense que on va réussir à marquer encore, je pense, une bonne trentaine de points.
C'est sûr que moi aussi, j'irai avec ça, avec les Texans qui ont une seule victoire face à une équipe qui n'a aucune défaite. On sait, c'est un rouleau compresseur à l'attaque. Je pense que ça devrait être un match facile si on se présente comme les autres matchs.
Et ensuite, je vais poursuivre avec l'équipe qui, selon moi, marquera le moins de points cette semaine. Je vais y aller avec les Colts de Indianapolis qui affronteront les Patriots. Les Patriots, cette année, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais que c'est une équipe qui a un petit peu de misère en attaque, mais qui bénéficie depuis quelques années, ben, même plusieurs années, d'une très bonne défense. On la sous-estime souvent. A gagné plusieurs Super Bowls, plusieurs vétérans, plusieurs bons joueurs, souvent reconnus pour leur interception et leur gros jeu. Donc, je pense que les Colts, cette année, ça ne va pas bien en plus en attaque. Ils n'ont pas une prestation espérée de Matt Ryan, leur nouvelle acquisition, qui était avec les Falcons d'Atlanta, un former MVP en plus dans sa carrière. Et les Colts, en plus, qui ne bénéficient pas d'un Jonathan Taylor en santé. On le sait, l'année passée, a fini avec le plus de touchés pour les running backs. Était absolument en feu. Il était même ranké premier dans les applications de pool en termes de comment qu'il allait performer cette année et est vraiment absent. Donc, je pense pas qu'il va ressortir plus cette semaine s'il affronte une grosse défense et les Pats. Donc, les Pats sentent la pression dans leur division en plus, donc ça va être un match qu'ils vont aller se présenter puis qu'ils vont repousser les Colts. Et est-ce qu'il y avait un dernier point à aborder pour cette semaine?
Ben, peut-être les équipes en difficulté, mais je pense qu'on en a parlé. Donc les Texans, donc quelques équipes qui déçoivent depuis le début de la saison.
Ouais, ben dans le fond, les équipes qui déçoivent, je pense aux Bears. On va parler des Bears un petit peu. Eux aussi qui vont affronter les Dolphins qui sont eux aussi dans la division des Patriots et des Jets et les Bills. Dans le fond, les Bears, on va parler de ça. Hier, c'était la dernière journée ou une des dernières pour faire des trades dans la NFL. Mm-hmm. C'était la trade deadline. Puis les Bears ben, sont allés chercher du renfort. Sont allés chercher Chase Claypool, un Canadien, dans les Steelers, un très bon receveur, qui selon moi n'était pas très bien entouré avec les Steelers. Il n'a jamais vraiment eu un très bon corps arrière derrière lui. Donc là, ben, il s'amène avec les Bears, qui n'ont pas une très bonne saison avec une fiche de 3 victoires, 5 défaites, mais il ne faut pas jeter la serviette trop vite. Donc là, il va rejoindre Justin Fields, un jeune corps arrière qui ont repêché l'année passée, qui tente de se développer, mais qui n'avait pas les outils. Mais Claypool va aller se joindre à un jeune groupe de receveurs avec les Bears. Donc selon moi, il va être plus utilisé et sera bénéfique à l'équipe.
Donc je pense que c'est ce qui conclut notre segment sur la NFL. Donc on peut passer vers la NHL.
Ouais.
Donc, du côté de la NHL, on commence par les résumés points forts de la semaine. Donc, je pense qu'on ne peut pas passer à côté du gros match de Tage Thompson des Sabres de Buffalo. 3 buts, 3 passes. Donc, quel match! Il rejoint un petit groupe de joueurs ayant fait ça dans l'organisation de Buffalo. Honnêtement, très impressionnant avec le hockey de nos jours. Donc, 6 points en un match. Pour ceux qui avaient prédit ça en l'ayant dans votre pool, honnêtement, bravo. Un gros 23 points dans une application de pool, c'est extrêmement bon. Donc, je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, Sam, là-dessus.
Ben, j'avais pas grand-chose à ajouter sur le fait que, ben, en plus, il est jeune. Il est dans une équipe qui est jeune. Je trouve qu'à ces temps-ci, Buffalo, ça va quand même bien, je pourrais dire. Il semble bien se développer. Puis là, ben, s'il ouvre la machine, tant mieux.
Ouais, aussi, Buffalo, on sait, Dalin en défense qui, honnêtement,
qui était en feu en début de saison.
Tout qu'un début de saison. Donc, honnêtement, Buffalo, ils me surprennent énormément en ce début de saison.
Ben oui, puis surtout que, tu sais, Buffalo, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été en série. Là, puis ouais, cette année, c'est le temps, là, la division amochée, Tampa Bay qui gagne pas, Toronto qui gagne pas.
Ouais, honnêtement, les Sabres, je pense que ça va vraiment être serré dans cette division-là cette année. Donc, on continue avec Eric Karlsson des Sharks de San Jose. Honnêtement, il est en feu. Un défenseur, 3 buts, 1 passe hier, 2 buts à son dernier match. Honnêtement, 5 buts dans les deux derniers matchs pour un défenseur, c'est tout simplement incroyable. Il est en feu, c'est le Eric Karlsson des vieux jours. Je sais pas quoi rajouter, il est tout simplement en feu.
Ouais, puis il faut aussi mentionner qu'avec ses deux derniers matchs, qui est au deuxième rang des meilleurs marqueurs de la LNH, des marqueurs, des buteurs. Il est juste derrière Connor McDavid et même devant des gros noms comme Kaprizov, Pasternak, des Stamkos. C'est vraiment impressionnant là, de voir ça.
Ouais, Eric Karlsson, tout simplement, il est en feu. Comme j'ai dit, c'est le Eric Karlsson des vieux jours, honnêtement, à Ottawa, dans son, excusez-moi l'expression, prime, il est tout simplement trop fort. Donc, on poursuit avec les équipes en feu. Donc, je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur les équipes en feu en ce moment, ça.
Ben moi, de ce que j'ai vu de mes propres yeux, les Bruins de Boston, aïe aïe, hier, ben je sais que cette saison, ils ont quoi? Une défaite?
Ouais, donc les Bruins de Boston, 9 victoires, une défaite en 10 matchs, ont 18 points. Ils dominent la division Atlantique, justement devant les Sabres. Donc les Sabres qui se classent au deuxième rang derrière les Bruins, mais les Bruins tout simplement en feu. Donc hier, gros match encore, perdait 5-2. On réussit à remonter ça et aller gagner ça en prolongation, je pense.
Ouais, en prolongation, faut mentionner Hampus Lindholm, le défenseur des Bruins, qui a vraiment contribué avec le but gagnant et dont, avec ça, 3 assists durant la partie, donc a accumulé 4 points. C'est une très bonne prestation. Fait que, tu sais, c'est là qu'on voit que les Bruins, c'est pas tout le temps juste un joueur. Tu sais, Marchand n'était pas là, là, il revient, il aide l'équipe, mais tu sais, c'est une équipe qui... Il n'y a pas grand de mauvais trio. Tout le monde contribue. Pis...
Je pense aussi à Taylor Hall, qui a toujours été un bon joueur, mais un gros début de saison, là, 5-6 buts, j'ai vu. Et il a encore marqué hier pour égaliser la partie. Donc, Taylor Hall, qui, je pense que les Bruins, c'est une équipe de vétérans, une équipe qui se tient. Beaucoup de leadership.
Ils sont bien coachés à part de ça.
Ouais, donc, honnêtement, les Bruins, cette saison, je pense qu'ils vont être vraiment à surveiller. Donc... équipe en difficulté continuer. Moi, équipe en difficulté, on pense peut-être...
encore facile, on préfère un retour sur les Canucks de Vancouver.
La semaine passée.
Donc. Encore perdu. Nous, on s'attendait, comme on avait dit dans notre émission, à peut-être une remontée. T'sais, on s'est dit, premier match gagné, all right, let's go. Il ouvre la machine, ça va commencer à accumuler des victoires, mais je comprends juste pas.
Donc, écoute, en 10 matchs, 2 victoires, 6 défaites et 2 défaites en temps supplémentaire. Donc, les Canucks, comme on l'a dit la semaine passée, ont tous les éléments. Par contre, ne réussissent pas à aller chercher la victoire à tous les soirs. Donc, sont très décevants. As-tu une autre équipe en tête?
Je pourrais parler des Prédateurs de Nashville. Les Preds, cette année, je m'attendais qu'ils allaient sortir plus fort parce qu'ils se situent à l'avant-dernier rang de la division centrale. L'année passée, UC Saros, Romagnosi aussi, des joueurs comme ça, des Matt Duchesne, ça produisait comme ça avait pas de bon sens. Là. Romagnosi aussi a fini premier pointeur de défenseur l'année passée. Après ça, UC Saros. Un des goalers qui a joué le plus de matchs l'année passée, un des goalers qui avait le plus de victoires. Comme je te dis, là, il n'y a rien qui marche. Donc, 3 victoires, 6 défaites, une défaite en prolongation. C'est pas ça qu'on s'attendait d'eux autres. Là. Même Arizona est devant eux. Je la comprends pas, celle-là.
Donc oui, et moi aussi je pense à juste en dessous d'eux. Donc les Blues de Saint-Louis, ils ont deux matchs de moins que les Preds, sont derrière, mais par contre, 3 victoires, 5 défaites. Ils ont gagné les 3 premiers matchs de la saison.
Ouais, donc... c'est ça. Tu sais, les Blues, on peut les blâmer de n'avoir perdu 5 d'affilée. C'est ça, je comprends, c'est des léthargies. Mais faut pas oublier leurs trois premiers matchs de la saison qui ont sorti fort. Là, d'après moi, c'est une mauvaise passe. C'est le temps de se réadapter. Ils ont perdu Bouchnevich en début de saison. Là, il est revenu.
Il vient de revenir. Il fait des beaux points.
Ce qui va faire la différence, c'est ça qu'on attend de voir à Saint-Louis. Est-ce que là, on commence à se poser des questions? Bennington, c'était-tu vraiment notre goaler de concession? On a si bien fait de laisser partir Ousso. On avait un bon tandem de gardien de but l'année passée. Là, toute la pression sur Bennington... J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça.
Moi, je pense que la perte de David Perron...
Qui
fait très mal. Donc, un vétéran qui est très bien établi dans la Ligue nationale.
Un bon joueur en avantage numérique aussi.
Donc,
pour les Blues.
La perte, ça fait mal, on le voit peut-être un peu. Donc, mais je pense qu'ils peuvent remonter. Donc, pour continuer, on va parler des joueurs en panne sèche, Sam.
Dans la Ligue nationale?
Oui.
Bon, toi, t'as-tu des joueurs en tête?
Ben, écoute, peut-être...
Ben, moi, j'en ai un. Austin Matthews. On va en parler d'Austin Matthews. Bon, ça fait 2 années qu'il gagne le Richard. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le Maurice Richard? C'est le trophée pour l'attaquant ou le défenseur, peu importe, qui marque le plus de buts dans une saison. Je sais que l'année passée, on a même atteint le plateau des 60 buts. C'était assez impressionnant. Une vraie machine à but dans son cas. C'était même l'année passée, il y avait un des meilleurs pourcentages de buts par rencontre. Il y avait, je pense, même une moyenne de 1.4 buts par game dans ses dernières 82 games. Mais là, cette année, je sais pas, il a 3 buts en quoi 10
En 10 rencontres.
En 10 matchs.
Donc 8 points en 10 matchs, c'est pas mauvais. Par contre, les Maple Leafs, qui eux aussi, on peut dire qu'ils sont un peu décevants, on les voit comme une équipe de haut classement, une équipe qui peuvent peut-être même
remporter une coupe cette année,
donc avec des gros joueurs. Par contre, ça va prendre l'appui de tout le monde, et principalement par Austin Matthews, qui on devra marquer des gros buts.
Ouais, veux pas, ça passe par lui. T'sais. Oui, dans une équipe, c'est important que ton quatrième trio rentre sur la glace et qu'il fasse un gros but une fois de temps en temps, ou ta troisième ligne, mais... Faut que tu passes par tes gars qui sont payés des 10, 11 millions. Puis Matthews, il est payé justement pour ça, faire des buts. Puis là, en ce moment, ça marche pas comme il veut. Fait que là, j'ai hâte de voir si il va prendre son mal à patience, il va mettre du hard work, puis qu'il va revenir, puis qu'il va commencer à l'empoter dedans.
Ouais, donc Austin Matthews, un joueur peut-être en panne sèche niveau but. Donc on continue avec les joueurs en feu, par contre. Moi, je pense à Connor McDavid, Leon Draisaitl. Donc, l'attaque des Oilers qui est tout simplement incroyable.
Le monstre à deux têtes. C'est le monstre à deux têtes.
C'est juste incroyable. Donc, ici, on va voir les statistiques de Connor McDavid. C'est juste tellement impressionnant.
Moi, je les ai sous mes yeux. Il a 22 points, McDavid, et son collègue Draisaitl, 21. Les deux se suivent de proche. McDavid a 11 buts. Tandis que Draisaitl, attendez-moi, je l'ai manqué, je vois pas son nombre de buts. Tu le vois-tu, toi?
Nombre de buts.
Je pense que...
6 buts.
6 buts?
Ouais.
Ah, bon, c'est peut-être pas une machine à buts, mais...
5 buts.
Ah, ben il y a 16 aides.
Ouais, donc 5 buts, 16 aides, donc 21 points. C'est tout simplement incroyable. Donc, comme on l'a dit, l'attaque des Oilers qui est tout simplement...
Puis ce qui est le fun de voir cette année, c'est que Draisaitl et McDavid... Tu sais, Draisaitl l'avait dit en début de saison, cette année, McDavid va gagner le Maurice Richard. Ouais. J'y croyais pas trop dans ma tête, McDavid. C'est un passeur. Mais là, Draisaitl aussi, c'est un passeur. Puis là, c'est un passeur qui complète très bien un buteur. Donc, à voir. Mais là, si personne n'est en mesure de les arrêter, ils vont faire un vrai désastre. Là.
Ouais. Donc, je pense que c'est ce qui conclut notre segment NHL. Donc, on termine l'émission avec l'actualité sportive en général, comme on vous l'a mentionné. Donc, la série mondiale de baseball, donc entre les Astros contre les Phillies. Donc, grosse victoire des Phillies hier, 7-0.
Ouais, 7-0, un match à sens unique, on peut dire.
Ouais, avec j'ai vu quelques circuits. Donc, les Phillies qui mènent la série 2-1.
Donc, est-ce que tu sais si là, c'est à Philadelphie que ça se joue?
J'ai pas vu. Par contre, écoute, les Astros.
C'est à Houston.
Les Astros qui sont peut-être en difficulté après un match de 7-0 en finale.
Oui, mais il faut se dire que c'est 2-1. Il faut rester calme dans ces moments-là.
Ouais. Donc, ensuite, Félix Auger-Aliassime, un Québécois qui a remporté en fin de semaine un troisième tournoi de grande importance consécutif. Donc, il est en feu.
Un Québécois en plus.
Il a battu le premier mondial dans son dernier tournoi en demi-finale pour passer en finale. Il l'a dit, il est dans la meilleure forme de sa carrière. Il est jeune.
Il joue du gros tennis ces temps-ci.
Donc, je pense que vraiment, c'est une fierté québécoise. On est chanceux de...
Ça promet pour la suite. Là.
Il est encore jeune. Donc, honnêtement, il est dans le top 5 mondial, je pense. Mais qui sait, peut-être qu'on peut le voir un jour numéro 1 mondial.
Atteindre le sommet.
Ouais. Donc, c'est ce qui conclut notre émission aujourd'hui, Charles?
Ouais, c'est ce qui conclut notre émission aujourd'hui. Donc, je sais que dans les semaines à venir, à partir du 18 novembre, on va même pouvoir rentrer des segments de la Coupe du monde au soccer qui va commencer. Ça va être intéressant à suivre, le parcours du Canada. On vous en parlera quand ça sera le temps, mais ça va être pour les émissions à venir.
Et on a extrêmement hâte. C'est très rare que le Canada peut participer à une...
Je pense que ça faisait depuis 1976 environ que le Canada n'avait pas participé à ce grand événement télévisé.
Donc, de gros sujets à venir dans nos émissions. Ne manquez pas les prochaines émissions. Donc, c'était les Pouleurs. Merci de l'écoute. Soyez là la semaine prochaine pour votre actualité sportive de la semaine. Merci.
Ouais, à plus tard.